Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Bonjour à tous, c'est l'heure d'Univox, le magazine hebdomadaire des Radio Campus dédié au monde étudiant, au monde associatif et aux initiatives citoyennes. Cette semaine, on a voulu partager avec vous une interview réalisée il y a quelques jours par Radio Campus Paris, une interview de Mehdi Mekla et de Badroudine Saïd Abdallah, dit Mehdi et Badrou, le duo polyphonique multitalent, reporter au Bondy Blog, chroniqueur radio, réalisateur et maintenant auteur. Ils nous présentent leur premier docu, leur premier roman et nous livrent surtout leurs pensées sur ces derniers jours à Paris.
Univox. Mehdi Badrou, bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ce soir, vous êtes un duo de journalistes de 23 ans avec déjà 10 ans d'expérience dans vos besaces. Vous avez débuté au Bondy Blog lors de sa création en 2005 avant de passer 6 ans aux côtés de Pascal Clark. C'était sur l'antenne de France Inter et d'où vient votre surnom, des Kids. Vous avez publié le mois dernier un livre Burnout et un documentaire sur l'immeuble Balzac de la Courneuve quand il a fallu partir. Alors la rédaction de la matinale vous avait invité à l'origine pour parler de ce livre et de ce documentaire, sauf qu'on va quand même vous passer poser quelques questions. D'abord, déjà, quel est votre ressenti aujourd'hui, 3 jours après les attentats de vendredi?
Mon ressenti à moi, Mehdi, il est comme tout le monde, finalement. On est dans un moment où, finalement, nos peurs, nos cris se ressemblent aujourd'hui. Donc, moi, c'est un peu comme tout le monde, c'est à la fois continuer de marcher, mais on ne sait pas vraiment où, continuer d'écouter, mais on ne sait pas vraiment qui, continuer de travailler, mais on ne sait pas trop comment. Voilà, c'est des jours un peu particuliers où finalement, on prend les choses telles qu'elles sont et on continue à faire des choses, mais sans savoir pourquoi on les fait, comment on les fait et avec qui. Et voilà, c'est un moment de doute, finalement. C'est pas un moment de panique pour moi, c'est vraiment un moment de doute. C'est un moment où on se pose des questions sur nous-mêmes, sur le monde, sur les gens.
Ce qui est terrible à voir aussi, c'est qu'aujourd'hui encore, après 3 jours, nous les survivants, on est aussi à l'arrêt en fait. On est à l'état de pause parce qu'on préfère croire encore et encore que ça ne s'est pas passé. Mais malheureusement, il faudra continuer d'avancer en se disant que ça s'est passé, il faudra faire avec, il faudra continuer de vivre, il faudra continuer il faudra continuer de trouver les mots, mais pour l'instant on les a pas en fait.
Vous avez pas du tout de mots qui vous vient à l'esprit aujourd'hui, 3 jours après?
Les mots, c'est tous les mots qu'on a déjà entendus. Nous, on a écrit quelque chose sur le Bondy Blog, le jour d'après, parce qu'on avait un souvenir très précis des bruits qu'on avait entendus cette nuit-là. Nous, on était très proches et du coup, on ne voyait pas grand-chose, mais on entendait beaucoup. Et donc, c'est le souvenir plutôt que de mots, de bruit. Voilà, de bruit un peu terrible qu'on avait entendu jusqu'ici qu'à la télévision. Des bruits d'armes, des bruits de cris, des bruits de panique, de foule, de gens, de peur. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui restent imprégnées, quoi.
Ce week-end, vous êtes allé dans les rues, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que dans ces moments-là, pendant les 3 jours qui suivent, est-ce qu'on a un regard de journaliste comme vous, ou qui trouve les mots généralement pour mettre quelque chose sur un sentiment, ou est-ce que vous êtes juste là, envahi par le sentiment, comme un citoyen lambda?
Je pense qu'il faut aussi être... J'aime pas trop le mot de journaliste, je préfère celui de reporter. Vous l'avez utilisé tout à l'heure pour les gens qui travaillent ici. Il faut avoir son regard aussi de reporter, de gens qui regardent ce qui se passe. Finalement, un reporter, c'est quelqu'un qui regarde l'action, voilà, qui n'est pas au centre du débat, qui est là pour sur le côté et qui regarde ce qui se passe. Et nous, on a toujours eu ce regard-là, ce regard de la personne à côté qui regarde les faits. Et effectivement, que ce soit à République ou dans ces quartiers-là, on avait un regard de reporter, de gens qui regardent ce qui se passe, qui écoutent les témoins, qui écoutent ces voix-là et qui regardent un peu cette innocence aussi des gens. Voilà, l'innocence d'être dans la rue, de vouloir se recueillir. J'utilise le mot innocence parce qu'il me plaît particulièrement après un truc aussi compliqué et dur.
Badrou, une réaction ?
Et puis, ce que moi j'aimerais aussi parler de ceux qui malheureusement, face à un moment comme ça, se décident de rester chez soi, parce que t'es tellement, happé par la panique qui grandit de jour en jour, que finalement t'as pas envie en fait. T'as même pas envie de te retrouver avec d'autres, t'as même pas envie de parler sur ça, t'es comme ça, tu t'enfermes. Il y a un enfermement qui est provoqué par ce moment et qui a été remarquable à constater malheureusement aussi.
Vous étiez donc dans le 11e, vous habitez encore à Saint-Ouen, en Bervilliers, il me semble. Vous êtes allé là-bas aussi, est-ce qu'il y avait une émotion qui était différente, des réactions qui étaient différentes de ce que vous avez vu à République peut-être ?
Non, il n'y a rien de différent. Dans un moment pareil, il n'y a pas de voix discordante, quoi. Les gens, je disais, ils sont rassemblés dans leur chagrin, que ce soit à République ou à La Courneuve ou à Saint-Ouen ou partout, à Marseille, etc. C'est une sorte d'incompréhension. Mais après l'incompréhension, après cette émotion, etc., il faudra réfléchir. Et il faudra, comme dit Badrou, trouver les mots, mais aussi réfléchir, penser à ces gens. Moi, je dirais pas ceux qui sont morts, mais ceux qui ont tué. Il faudra penser à eux, penser à leur parcours, à leurs sentiments à ce moment-là. Comment on arrive à ça ? Comment on arrive à cette horreur-là ?
Et ça, c'est pour la phase d'après.
Oui.
Pour l'instant, on n'est pas encore.
Voilà, c'est des choses. Là, c'est des choses très compliquées. C'est de retracer les parcours des gens, de se mettre, d'essayer d'imaginer ce qu'ils avaient dans la tête à ce moment-là. Est-ce que c'est ils ont le cerveau vide ? Est-ce qu'ils ont le cerveau plein ? Est-ce qu'ils ont qu'est-ce qui les pousse à aller jusqu'à cette horreur, à tuer autant de gens ? Mais tout ça, c'est après l'émotion. C'est quand on pourra réfléchir sur ce qui nous est arrivé.
Vous avez tweeté tout le week-end sous votre compte Marcelin Deschamps. L'humour, c'est une manière de se protéger par rapport à ce qui se passe ou justement de réfléchir et d'analyser.
Je sais pas, c'était drôle ou pas ? Non, je sais pas. Je tweete comme tout le monde, des messages. Après, il y a des choses beaucoup plus difficiles. Donc Twitter, c'est bien pour évacuer finalement. Moi, quand je vois les propos de Malek Bouti sur France Inter, ça me crispe, ça me choque. Franchement. Et ça me choque autant que les propos radicaux extrêmes de Marine Le Pen. Pour moi, c'est la même bande de fachos, quoi. Et du coup, Twitter, ça permet ça. Ça permet aussi de partager ses colères, quoi.
Mais du coup aussi, ça peut être une caisse de résonance de beaucoup de choses, dont des propos qui ne sont pas...
Je sais pas si j'ai fait de l'humour là-dessus, peut-être. J'oserais pas spécialement faire ça, parce que j'ai un énorme respect pour ces gens, pour cette histoire, pour cette tragédie, comme on dit. Donc Mais oui, ça peut être une caisse de résonance, ouais.
Et au-delà de l'humour, ce regard de reporter dont tu parlais, c'est aussi un moyen de se détacher dans ces cas-là, de se sentir utile ?
Regard de reporter par rapport aux événements ?
Ouais.
Honnêtement, si on veut être encore plus cash par rapport à ça, moi personnellement, j'ai du mal en fait depuis 3 jours à voir les choses, à essayer de me les représenter, de les comprendre, de même me les expliquer.
Il y a une perte de repères.
Ouais, il y a une perte de repères. Il y a comme une envie de se dire encore et encore que non, ça s'est pas passé. Et puis il y a un truc très terrible à dire aussi, c'est qu'aujourd'hui on a plus d'excuses en fait. On n'a plus l'excuse de l'ignorance. Hier c'était beaucoup trop confortable de rester dans l'ignorance, de ne pas chercher à savoir ce qui se passait dans les autres bouts du monde, en pensant que ça ne nous concernait pas et que ça ne nous regardait pas. Et aujourd'hui on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus laisser parler ceux qui nous veulent, ceux qui veulent dire que l'on est en guerre, que on est il faut chercher à se sentir un peu plus concerné par tout ça, parce que c'est comme ça peut-être qu'on arrivera à trouver les clés et pour arranger ces choses-là.
Se sentir concerné, ça mène à quoi du coup?
Ça te rend moins dupe, ça te et puis quelque part aussi ça arme le discours que tu peux avoir face à ces choses-là. C'est-à-dire que aujourd'hui on est trop dans une naïveté ou dans une bipolarité par rapport à toutes ces questions-là. C'est-à-dire que ces terroristes, ces monstres, ces barbares, ils ont réussi à arriver là où ils en sont, c'est qu'ils étaient armés, financés, soutenus, et que ça ne date pas d'hier. Et comment nous, enfin occidentaux, comment nous citoyens du monde ou nous qui faisons confiance à nos dirigeants, on a pu laisser passer ça? On a notre responsabilité aussi.
Un qualificatif revient souvent lorsqu'on demande de vous décrire. Ce qualificatif, c'est énervé. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi être énervé pour vous?
Oh bah c'est être. Moi, je ne sais pas si le terme d'énervé est juste. Je dirais plutôt que nous, comme d'autres, on se sent plus un peu révolté. C'est une façon. Révolté, c'est une façon d'être debout, d'être vivant, de pouvoir encore crier, encore s'énerver. C'est une façon aussi de pouvoir être créatif. Quand on est révolté, j'ai l'impression qu'on a une envie de faire quelque chose, que ça soit bousculer ou que ça soit écrire, que ça soit créer. Donc je pense que ce mot de révolté, il nous ressemble comme il ressemble à beaucoup de gens finalement. Il ressemble à une certaine jeunesse, à une certaine partie de cette population qui se retrouve pas forcément dans ce qu'on lui sert, quoi.
Univox.
You go wrong, but you do it anyway. How's it been? Well, I must say for me, please go away. I can put it on if that's what you want. You like to get together, but I'd rather. Time. Who gave a shit for God? You still have something to prove. Now something to hide. And everyone assumes this promise is not to cry. Anyway, you're probably fine. Now that you got what you want. Now you got your freedom.
Freedom. Your freedom.
C'était Freedom de Tch-tch-tch.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On est toujours en compagnie de Mehdi et Badrou pour parler de leur livre Burnout et avec Jules de la rédaction. Jules, à toi.
Oui, vous avez réalisé un documentaire, une série, fait de nombreux reportages et articles, écrit un livre. Alors chroniqueur, journaliste, auteur, réalisateur ou tout simplement observateur, aujourd'hui, comment vous vous définiriez ?
Ou reporter.
Non, observateur, c'est pas mal. C'est pas mal parce que finalement, être observateur, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ne pas être au centre de quelque chose, de l'action ou quoi. C'est être sur le côté, c'est pouvoir regarder ce qui se passe, quoi. Et en ce moment, il se passe beaucoup de choses. On en a parlé tout à l'heure. Il se passe beaucoup de choses dans les vies des gens. Il se passe beaucoup de choses dans nos villes. Et être observateur, c'est une façon de pouvoir regarder, prendre le temps, trouver les mots, échanger, trouver de différentes voies, puisque être observateur, c'est aussi observer tout le monde, c'est pas observer qu'une partie des gens ou que les gens qui pensent comme ça ou que les gens qui pensent comme ça, c'est une façon de faire une photographie finalement de tout le monde.
Dans l'idée en plus de la photographie, c'est apporter aussi un éclairage, du relief à ce qui est notre époque, qui est assez compliqué en fait, qui est assez difficile en fait à sentir. On est dans une époque qui marche avec des fils emmêlés. Donc il faut les démêler pour arriver un peu à faire la part des choses. Et aussi on est dans une époque où l'argent ou le statut social il vaut plus que tout. On te fait comprendre ça à longueur de journée avec les télés ou même parfois dans les pubs et tout ça. Et du coup, on a besoin quelque part un peu d'humanité, de se sentir utile un peu. Parce qu'on nous matraque dans l'idée aujourd'hui qu'on ne vaut rien et qu'on n'y peut rien face à tout ça. Et c'est pas vrai.
Justement, le temps d'observation avant de prendre la photo pour votre livre sur le burn-out, ça vous a pris combien de temps avant de pouvoir se dire... C'est bon, je peux l'écrire.
Oh bah ça, vous savez, c'est pas une. Enfin pour moi, la question, elle se pose pas en termes de temps. Elle se pose en termes d'urgence. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on se dit, il est urgent de le faire tout de suite. Mais c'est comme tout finalement. C'est comme écrire un article. C'est comme partir dans un endroit pour faire un reportage. On se dit que c'est le bon moment et qu'il faut y aller maintenant, qu'après il sera trop tard. Ou peut-être qu'on a trop attendu avant de le faire, avant de ne pas le faire. Et du coup, faire une photographie, écrire un livre, écrire un roman, c'est une forme d'urgence. C'est une forme de se dire, voilà. Maintenant, on est arrivé à un stade où il faut produire quelque chose, voilà. Parce que écrire, photographier, faire de la radio, etc., c'est produire quelque chose. Produire un objet, soit éphémère ou peu importe, mais c'est produire quelque chose. C'est une création. Donc, nous, on a travaillé dans ce terme dans cette façon, dans l'urgence finalement, ouais.
Votre web-série Vie rapide sur Arte, elle témoigne de cette urgence, elle est un peu au centre de votre travail. Quelle place elle prend aujourd'hui ?
C'est une série où il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour raconter une histoire, on est là pour raconter plusieurs histoires, plusieurs personnes, plusieurs univers. Et elle nous accompagne finalement. C'est elle qui nous accompagne puisque on a une caméra avec nous et puis on filme un peu ce qu'on voit. Voilà, on filme les gens qu'on croise, on filme les artistes qu'on rencontre, on filme nos amis, on filme un peu tout ça. Et je pense qu'elle décrit une certaine réalité. Voilà, qui est pas seulement la nôtre, qui est la réalité aussi de plein de gens qui rencontrent des gens différents, etc.
C'est aussi un moyen de rester les pieds sur terre.
Bon, c'est ça, après, la référence, elle est pas mal. Oui, c'est une façon de rester là, quoi, de rester, et puis de continuer à regarder doucement, tranquillement, ce qu'on voit tous les jours, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant, on est dans une forme d'hystérie, beaucoup. Et
d'hystérie, faut, pourquoi ?
D'hystérie collective, de médias, de tout ça, quoi. Mais ça, on sait, on vit avec. Donc,
on cherche toujours à avoir réponse à tout. Elle se manifeste comme ça aujourd'hui, l'hystérie.
Et donc vous donnez pas de réponse.
Oui, enfin moi, j'estime que on peut donner des questions, Mais si on n'a pas les réponses, c'est pas grave, finalement. Parce que il y a des questions qui restent posées. Et ça, c'est intéressant de laisser les questions en suspens. Puisque après, on aura des si on laisse les questions en suspens, on a des réponses qui viendront très diverses. Alors que si on cherche la réponse immédiate, on aura une réponse.
Forcément une seule ? Pas forcément.
J'ai l'impression, moi, dans ce flot, dans cette hystérie, comme je disais tout à l'heure, que quand on pose les questions, on y répond tout de suite et on ne se laisse pas le temps de réfléchir. Et ça, c'est dommage, parce que finalement, avec la réflexion, vient une vraie différence, une vraie opposition entre les réponses, etc.
À choisir, du coup, entre les différents formats, vous faites donc de la websérie, là, c'est la première fois que vous faites un livre, vous étiez à la radio, vous faites des articles. C'est pas les mêmes publics, au final, pour ces formats. Comment vous les choisissez? À quel moment vous vous dites, je vais faire un livre, parce que ça parlera peut-être plus ou moins? Pourquoi?
Non, c'est pas une question de public. C'est pas une question de public, c'est simplement une question de forme. Le roman est très différent de la radio, et pourtant c'est des choses qu'on adore. La radio, c'est pour moi l'art de l'éphémère, finalement, de quelque chose qu'on crée à ce moment-là, qu'on partage ensemble tous les quatre, à ce moment-là, avec les gens qui sont en régie, etc., et qui s'en va, avec les gens qui écoutent aussi, et qui s'en va. Tandis que le roman, c'est quelque chose de l'éternel, finalement. Écrire un roman, c'est rester dans le temps, puisque on sait ce que c'est qu'un livre. Donc c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, c'est simplement que c'est des médias très différents, et c'est des en termes de temps, c'est des choses très différentes, et qui sont même totalement éloignées, qui n'ont absolument rien à voir. Et je pense que parfois on a envie d'écrire un roman, et parfois on a envie de faire une émission de radio.
Et pourquoi du coup ce choix du burn-out en particulier? Pourquoi l'histoire d'une personne qui s'est immolée du coup? Pourquoi cette histoire-là en point de départ d'un reflet de notre société actuelle?
Parce qu'avec cette histoire-là qui raconte l'histoire de... qui est inspirée d'une histoire vraie, inspirée de l'histoire de Jamal Char qui s'est immolé devant Pôle emploi à Nantes il y a 2 ans, on s'est rendu compte en fait qu'avec cette histoire on pouvait raconter toutes nos angoisses, toutes nos préoccupations et toutes nos révoltes. On revient encore à ça. Et toutes nos révoltes qui sont liées au regard que l'on pose et que l'on a sur la France aujourd'hui, qui est un pays qui déjà, lorsque ce pays se retrouve face à un mort comme celui-là, ne donne pas réponse, ne donne pas suite. On a un pays qui n'écoute plus les morts aujourd'hui. Et pourtant, ce mort-là, malheureusement, il représente... Avec ce geste-là, il a voulu lancer quelque chose, parce qu'il s'est fatalement inspiré de révolutions ou d'autres moments historiques qui étaient importants dans des pays comme la Tunisie ou l'Iran ou le Tibet. Et ici, en France, rien ne s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, en France, les questions sociales, elles sont étouffées, en fait. Elles sont minorées. On croit que la France va... On sait que la France va mal, mais on croit qu'elle va mal par réflexe hormonal. Alors que non, c'est juste qu'on est que socialement, on est un pays qui se casse la gueule.
Vous parlez du Bondi Blog comme d'un média inédit qui raconte les banlieues de l'intérieur. Faire entendre les voix de la banlieue, c'est encore aujourd'hui l'un de vos principaux objectifs?
Ouais, la banlieue, c'est une réalité sociale, hein. C'est pas. Alors certes, c'est un territoire. D'ailleurs, on dit la banlieue, mais c'est les banlieues puisqu'elles sont toutes différentes. Mais c'est une réalité sociale dans le sens où la banlieue, c'est une sorte de d'épicentre de plein de choses, de beaucoup de pauvreté, de beaucoup de précarité. D'un taux de chômage élevé, de jeunes qui sont pas forcément toutes les cartes en main pour pouvoir continuer à avancer. Mais quand on parle de la banlieue, on parle aussi de villages en France qui sont oubliés. On parle aussi de provinces qui ont des réalités difficiles. On sait que dans certaines villes, les choses ont cramé, quoi, finalement. Et c'est important pour nous de continuer de raconter ça parce que nous aussi on en découvre tout le temps, Et d'ailleurs, à notre plus grand étonnement, puisqu'on découvre toujours pire, toujours plus de plus en plus, quoi, finalement. Et on se dit que, à la fois, c'est désespérant, mais à la fois, il faut continuer de le raconter, parce que, finalement, ça veut dire plein de choses sur le pays.
Et sur toutes ces choses, du coup, que vous constatez au fur et à mesure, il y a, pour la suite, un point que vous aimeriez développer après, que vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez écrire ?
Je pense qu'on va continuer à écrire comme on écrit sur la politique, sur la précarité, parce que c'est des sujets qui nous parlent, qui nous touchent. Et je pense que quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours, voilà, ça pousse à continuer. Finalement, vous n'allez pas arrêter. Voilà, chacun va continuer. Et chacun, je pense, si on a une bonne réaction, c'est que chacun va faire x10, x1000. Vous comme nous, finalement.
Mehdi Badrou, du coup, on n'a plus beaucoup le temps pour finir. Du coup, on va juste vous remercier d'être venu ce soir, malgré tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on peut retrouver votre livre Burnout, c'est bien ça, et votre documentaire, du coup, dont on n'a eu pas beaucoup de temps pour parler non plus, qu'on peut retrouver de quelle manière ?
On peut le retrouver sur le site d'Arte quand il a fallu partir, mais bon, tout ça, c'est pas très grave.
Comment ça, pas très grave ?
Bah, à côté du reste, c'est pas grand-chose.
Bah, disons que ce serait peut-être une distraction pour sortir la tête du fil de France Exactement. Info sur les jours qui viennent. Merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Univox, le magazine hebdomadaire des Radio Campus. Vous pouvez réécouter cet Univox sur le site radiocampus.fr. Bonne soirée à tous.